Donc Actes, chapitre 6, versets 1 à 7. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. » Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait, beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Donc jusqu'ici, notre texte pour aujourd'hui. Un texte qui parle de murmures, et ma vérité, celle que j'ai ressortie de ce texte, c'est que les murmures dans l'Église peuvent être transformés en service les uns envers les autres par la grâce de Dieu. Les murmures dans l'Église peuvent être transformés en service les uns envers les autres par la grâce de Dieu. Le titre que j'ai donné à mon message, c'est « Du murmure au service en passant par l'unité ». Du murmure au service en passant par l'unité. Et donc, puisqu'il est question de murmures dans ce passage, nous verrons premièrement quelles sont les causes des murmures, qu'est-ce qui peut provoquer les murmures dans une église. Deuxièmement, est-ce qu'il existe un rempart contre les murmures? Oui, nous verrons que ce rempart, ça sera mon deuxième point, eh bien c'est oser parler du problème, le mettre à la lumière, oser en parler en unité d'église et dans la confiance. Un rempart contre les murmures. Et troisièmement, eh bien, est-ce qu'il existe un remède contre les murmures? Oui. Et ce remède, eh bien, c'est le service dans l'Église. Alors, malgré la persécution, eh bien, l'Église de Jérusalem continue de croître. Et elle continue parce que c'est l'œuvre de Dieu. L'Église, c'est le projet de Dieu et personne ne peut l'arrêter, quels que soient les efforts de l'homme. L'Église grandit donc, et puisque l'Église grandit, eh bien, il faut s'adapter, il ne faut pas être figé. Et l'homme doit faire sa part. Et effectivement, et quelle est la part la part de l'homme dans ce cas-là? Eh bien, c'est que les apôtres, ils ont pris conscience que l'Église grandissait, et donc, comme elle grandissait, il faut la structurer. Il faut la structurer pour éviter que ne surgissent des problèmes d'ordre matériel, des problèmes financiers, des problèmes alimentaires. Il faut une organisation. Et ce besoin-là, il surgit lorsque l'Église a grandi, et c'était le cas. On se rappelle que dans l'Église primitive, il y avait une grande solidarité. Une grande solidarité qui ne laissait personne dans le besoin. Je vous relis Actes 2,45, ce qu'on avait vu avant. Ils, donc les disciples, vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Et je vous ramène aussi au texte dans Actes 4, 32 à 35. Donc on avait vu, hein, il n'y avait pas d'obligation de vendre, c'était simplement quand on voit un besoin. Les disciples étaient prêts jusqu'à aller vendre leurs propriétés pour venir en aide à leurs frères et sœurs. Donc il y avait une grande solidarité dans les disciples. Et il y avait aussi une solidarité, il était d'usage, d'user de solidarité envers les veuves. Il est question de veuves dans ce passage. Des veuves, pourquoi? Parce qu'une veuve, c'est donc une femme qui perd son mari, elle se retrouvait facilement dans le besoin après le décès de son mari. À l'époque, il n'y avait pas d'aide sociale comme aujourd'hui. Et donc, eh bien, c'était à l'Église de prendre soin des veuves qui se retrouvaient dans le besoin. Et comment? Eh bien, il s'agissait de répartir chaque jour une somme d'argent pour venir en aide aux veuves, pour les nourrir. Et cet argent était pris à partir de quoi? À partir du pot commun. Des dons faits par l'Église. Donc chacun donnait, et donc il y avait une répartition qui était faite. Sauf que la répartition, elle n'était pas équitable. Elle n'était pas équitable puisque le texte nous dit que les veuves hellénistes, donc les veuves hellénistes, c'était les veuves qui étaient de langue grecque, eh bien elles étaient négligées. Au profit de qui? Au profit des veuves hébreux. Donc il y avait... On peut y voir un certain favoritisme. Alors à quoi était-ce dû? Est-ce que c'était manque de moyens? Ils avaient du mal à calculer les moyens. En tout cas, il y avait quand même un certain favoritisme. Les veuves hébreux étaient mises sur une meilleure position que les veuves hellénistes, celles qui parlaient grec. Un favoritisme entre croyants. Et là, eh bien, c'est suffisant pour provoquer quoi? Pour provoquer des murmures. Des murmures à l'intérieur de l'Église. Alors, on voit bien l'évolution de l'Église. Au début, tout était très bien. L'Église naissait et il y avait. Tout était très bien. Et puis est venue la menace extérieure des chefs religieux qui se sont opposés à la croissance de l'Église, opposés à la foi chrétienne. Puis, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, on a vu une menace. Après la menace extérieure des chefs religieux, on a vu la menace intérieure avec le mensonge d'Ananias et Saphira, le mensonge dans l'Église, le mensonge qui n'a aucune place dans l'Église. Et on voit Ananias et Saphira en son mort, hein, ce mensonge qui venait de Satan, qui les a tentés. Donc, menace intérieure. Et après, donc, cette menace intérieure du mensonge dans l'Église vient une autre menace intérieure pour l'Église, qui est les premiers murmures. On a ici le texte des premiers murmures dans l'Église. Alors, ça n'a pas été les derniers, hein, dans l'histoire de l'Église. Penchons-nous déjà qu'est-ce qui peut causer des murmures dans l'Église? Mon premier point. Un murmure, qu'est-ce que c'est? Un murmure, par définition, c'est une réclamation. Une réclamation qu'on a faite en secret, parce qu'on n'ose pas la formuler à haute voix. Une réclamation qui est due à un mécontentement ou à de la jalousie. Donc, par définition, un murmure, c'est une réclamation faite en secret qu'on n'ose pas formuler ouvertement à haute voix, qui est due à un mécontentement ou à de la jalousie. Et le murmure, donc le mot murmure, peut être aussi traduit par rumeur, hein. Le murmure survient lorsqu'on n'ose pas mettre en lumière un problème mal vécu avec un tel ou avec un tel. Donc, on n'ose pas aller confronter la personne. Ce qui fait que ça donne quoi? Ça donne lieu à des murmures. Et donc, les causes des murmures dans l'Église peuvent être diverses et variées. De quoi peut-on se plaindre? La liste est longue, hein. On peut se plaindre d'une personne difficile dans l'Église. On peut se plaindre du ménage. On peut se plaindre d'être proche ou pas assez des Écritures. On peut se plaindre d'un manque de ponctualité. On peut se plaindre de la cuisine. On peut se plaindre de la décoration, des tableaux qui ne plaisent pas. On peut se plaindre de la musique, trop ou pas assez rythmée. On peut se plaindre des responsables. Moi, j'aurais fait comme si, j'aurais pas fait comme ça. Et on peut se plaindre aussi d'une injustice due à du favoritisme, comme c'est le cas dans notre texte. Les veuves hébreux étaient favorisées par rapport aux veuves hellénistes. Et là, il s'agit clairement d'une injustice. Et c'est pas, on se plaint pas forcément d'une injustice. Alors, quand il y a ce problème, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait bonne figure. On arbore un sourire crispé, alors qu'on est contrarié au fond de soi. On supporte vaillamment la contrariété jusqu'à ce que les choses changent dans une attitude passive. Est-ce que c'est la bonne attitude? On ne veut pas faire de vagues. Oui, c'est bien de ne pas vouloir faire de vagues, mais est-ce que c'est la bonne attitude? Je ne crois pas. Parce que ça serait une attitude hypocrite. Et on se rappelle combien l'hypocrisie n'a pas sa place dans l'Église de Jésus-Christ avec l'épisode Ananias et Saphira. Les décès d'Ananias et Saphira. Ça serait de l'hypocrisie. Alors, le monde se plaint. Le monde a des revendications. Surtout en période d'élection. Les candidats ne manquent pas de proposer des solutions, de venir en attente aux besoins des gens. Et ça peut être des revendications légitimes de la part du monde. Mais nous aussi, dans l'Église, on peut avoir des revendications. Et on peut avoir des revendications qui sont tout aussi légitimes. Dans l'Église primitive, c'était une revendication légitime que les veuves soient logées à la même enseigne, aussi bien les Grecs que les Hébreux. Mais nous, nous avons beaucoup plus que le monde. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour bien gérer nos plaintes et nos revendications. Dieu nous a tout donné par grâce, quelle que soit la taille de notre église, qu'on soit une grande ou une petite église, Dieu donne tout ce dont nous avons besoin, donc par grâce. Quelle est la différence entre l'église et le monde, quand il y a des plaintes? Eh bien, la différence, ce n'est pas que l'église soit une communauté de gens parfaits, qui ne se plaint jamais, ce n'est pas le cas. Mais l'église, c'est une communauté de gens qui ont reconnu avoir besoin du pardon en Jésus-Christ. Et puisque nous avons besoin du pardon, c'est que nous pouvons nous blesser les uns les autres. Nous pouvons encore nous blesser, même entre frères et sœurs. On peut être déçus les uns par les autres, on peut se décevoir les uns les autres. Ce sont des réalités qu'il faut voir parfois en face. Le tout, c'est de les reconnaître. Parce que si on ne le reconnaît pas, si on ne veut pas le voir, ça veut dire qu'on nie la souffrance des autres. Ceux qui vivent mal telle ou telle situation, comme ces veuves hellénistes. On nierait la souffrance des autres et on peut aussi nier sa propre souffrance. Et je ne crois pas que c'est ce que Dieu veut. Et si on nie la souffrance des autres et si on nie sa propre souffrance, on n'est plus dans la vérité. Et l'esprit qui régit l'Église, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vérité. Je vous relis Jean 14, 17 que Jésus a énoncé. Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc nous avons reçu l'esprit, le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité. Le tout est de reconnaître les problèmes, de les voir en face, ne pas se voiler la face. Alors, où est-ce que se situe le problème, là, dans Acte 6? Est-ce que le problème était de se plaindre? Non. On a le droit de se plaindre, surtout quand il s'agit d'une injustice. On a le droit de se plaindre à condition d'éviter de murmurer. C'est ça qui n'est pas bon. Le tout est de choisir les bonnes personnes à qui on se plaint quand quelque chose ne va pas. Et qui est la première bonne personne à qui on peut se plaindre, à qui on a le droit d'exposer nos plaintes? La première bonne personne, eh bien c'est Dieu lui-même. On peut exposer nos attentes, nos souffrances, nos douleurs, nos déceptions, on peut tout dire à Dieu. Contrairement à l'idée reçue que le chrétien n'a pas le droit de se plaindre, nous pouvons tout dire à Dieu. Et lorsque nous disons nos plaintes à Dieu, c'est déjà un acte de foi. Parce que qu'est-ce que nous faisons lorsque nous disons à Dieu nos plaintes? Eh bien, nous prions. Et nous prions avec foi. Et qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on prie avec foi. Et même lorsqu'on expose nos plaintes à Dieu, nous prions avec foi. Et c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on lui parle. Et dans les psaumes, vous avez, pour n'en citer que quelques-uns, des psaumes 35, 41, 55 et bien d'autres, eh bien ce sont des exemples d'hommes qui ont exposé leur cause à Dieu. Ça n'allait pas. Et ils ont exposé en premier leur cause à Dieu. En premier. Donc ça, c'est la bonne attitude. De se plaindre auprès des bonnes personnes, la première étant Dieu. Je vais y revenir parce qu'ensuite, après Dieu, il y a effectivement... Eh bien, il y a d'autres personnes qui ont été placées au bon endroit. Mais la mauvaise attitude, quand quelque chose ne va pas, la mauvaise attitude serait d'éviter les personnes en cause et de parler du problème non pas à ces personnes, non pas à des proches qui l'interpréteraient à leur façon, qui vont le répéter à d'autres et qui vont parfois le déformer parce qu'ils n'ont pas bien entendu, et ainsi de suite, ce qui donne naissance à quoi? À des murmures. Et au final, les murmures ne fait qu'empirer le problème, parce qu'il s'est répandu, au lieu de le résoudre. Oui, il faut bien reconnaître que c'est plus facile de parler du problème à quelqu'un qui n'en fait pas partie, on se confie, hein, que d'aller voir la personne, de la confronter, pour parler du problème. La personne est la bonne personne. Parce qu'ici, eh bien... Je vais y revenir. Les premières personnes qui ont entendu les plaintes, ça a été les apôtres. C'est plus facile de parler du problème à d'autres personnes que celles qui sont concernées. Et je crois qu'il faut bien, et c'est souvent là, je crois que parfois on peut faire l'amalgame, il faut bien distinguer les plaintes des murmures. Ce sont les murmures qui sont interdites dans l'Église, qui ne sont pas bonnes. Les murmures sont répréhensibles dans l'Église, comme ils l'étaient tout autant en Israël dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament parle de l'Ancien Testament. Hein. Et regardez ce que nous lisons l'apôtre Paul, ce que dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 10, chapitre 10, versets 9 à 11. Je vous le lis. Hein. Et là, Paul prenait en référence les récits de l'Ancien Testament. 1 Corinthiens 10, 9 à 11. « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Donc déjà, le murmure était proscrit réprimandé dans l'Ancien Testament en Israël. Et nous lisons dans le Nouveau Testament, en ce qui concerne l'Église, en Philippiens 2,14, nous lisons ceci, « Faites toutes choses sans murmurer ni hésitation. » Faites toutes choses sans murmurer ni hésitation. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il y a une situation d'injustice? Comme c'était le cas clairement dans l'Église primitive, cette injustice au détriment des veuves hellénistes. Eh bien ce récit nous apprend justement comment éviter les murmures. Déjà, ne pas être passif. Ne pas laisser pourrir la situation. Et chercher à traiter le problème en Église, ensemble en Église. La bonne attitude dans ce récit, quand il y a des murmures, eh bien, c'est que le problème il a été communiqué aux responsables, en l'occurrence les apôtres. Le problème a été communiqué aux responsables. Et les responsables, ils n'ont pas jugé les personnes qui sont venues se plaindre. Au contraire, ils ont su entendre les plaintes, sans les condamner. Et ça les a conduits à quoi? Ça les a conduits à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour pallier au problème, pour régler le problème. Ils ont su écouter. Donc, premier principe, c'est de savoir écouter. Quand quelqu'un souffre, quelqu'un ne va pas dans l'Église, premier principe, c'est de savoir écouter, de ne pas laisser pourrir une situation, parce que la rumeur, ça va très vite. C'est comme un feu. Ça va très vite, ou alors c'est comme une gangrène. Ça peut gangréner, et ça fait des dégâts. Donc, lorsque les apôtres ont eu vent, connaissance du problème, ils n'ont pas traîné. Ils ont cherché rapidement une solution. Comment? En appliquant l'Église. Ils ont cherché ensemble la solution en Église, puisque le problème touchait tout un groupe dans l'Église, les veuves hellénistes. Mon deuxième point, après avoir vu quelle sorte de murmure, la cause des murmures, c'est quoi un murmure? Est-ce qu'il existe un rempart contre les murmures? Eh bien, ce texte nous apprend que oui, le rempart, c'est de oser parler du problème en unité d'Église et dans la confiance. C'est mon deuxième point. On se rappelle qu'à ses débuts, donc l'Église primitive, elle persévérait dans des habitudes qui constituaient la base d'une Église saine. La base de la vie d'une Église saine. Elle persévérait dans quoi, l'Église primitive? Je relis Actes 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Et pour qu'une Église soit en bonne santé, c'est dans toutes ces choses qu'il faut persévérer. Parce que ce sont toutes ces choses qui font l'unité de l'Église. Et clairement, dans notre texte d'aujourd'hui, il y a une de ces quatre choses qui faisait défaut. C'était quoi? C'était la communion fraternelle. Voilà, il y avait des plaintes. La communion fraternelle faisait défaut. Et donc, il fallait régler le problème. Et pour préserver la communion fraternelle, c'est pas Pierre qui a réglé le problème. C'est pas non plus Pierre et Jean. Mais ce sont les 12 apôtres qui se sont mis d'accord, qui se sont réunis pour trouver ensemble et rapidement une solution. Déjà, unité. Unité d'église, unité déjà des responsables. Pour trouver une solution. Alors, ils se réunissent tous les 12. Est-ce que ça va être eux qui vont régler les problèmes? Et on remarque qu'ici, ils n'utilisent plus le tirage au sort comme ils ont tiré au sort le remplaçant de Judas. Non, le temps a évolué, le Saint-Esprit a été donné à l'Église. Ils n'utilisent plus le tirage au sort pour choisir les serviteurs qui vont servir aux tables. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de ne pas tout décider eux-mêmes. Ils ont décidé de ne pas tout décider eux-mêmes, mais ils ont convoqué toute l'Église pour charger l'Église de désigner elle-même 7 hommes qui pourront servir aux tables. Et pas au hasard, les hommes devaient répondre à un certain profil. Quel est-il ? Ça devait être des hommes de qui on rendait un bon témoignage, des hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse, verset 3. Donc ça devait être des hommes à la fois spirituels, ayant une bonne réputation, et aussi avec une sagesse toute pratique pour s'occuper des affaires matérielles de l'Église. Et donc, les apôtres ont délégué donc cette recherche à l'Église, et il y avait une redevabilité. L'Église devait ensuite rendre compte aux apôtres. Et les apôtres ont dit « Et nous les chargerons de cet emploi ». Donc le choix de ces 7 personnes devait être entériné par les responsables. Les responsables ont délégué à l'Église, mais l'Église devait rendre compte aux responsables qui devaient entériner le choix des apôtres, le choix de l'Église. Donc les apôtres n'ont pas tout décidé eux-mêmes, tout apôtre qu'ils étaient, eux qui avaient connu Jésus en chair, mais ils ont fait confiance à l'Assemblée pour ce choix. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit était descendu sur toute l'Assemblée, comme il est encore présent aujourd'hui. Les apôtres sont morts, ils n'étaient pas immortels, ils sont morts. Mais l'Église continue, parce que le Saint-Esprit est toujours là. Le Seigneur, il a pourvu par le passé aux besoins de son Église, il pourvoit et il pourvoira encore aux besoins de son Église, quelle que soit sa taille, que ce soit une petite Église comme la nôtre, que ce soit une grande Église, il est fidèle. Et ici, dans ce récit, eh bien, on a là un témoignage d'unité et de confiance entre les responsables et l'Église. Les apôtres savaient que le Saint-Esprit était descendu, non pas sur eux seulement, mais sur toute l'Église. Donc la voix de l'Église compte, votre voix compte. Et c'est pour ça que pour des décisions importantes comme le choix des anciens ou le choix des diacres, il faut un assentiment de l'Église. On convoque l'Église pour cela. La semaine dernière, on a eu nos assemblées générales, votre voix compte. L'Église est consultée pour des décisions importantes. Une fois que le choix est fait, donc là, eh bien, l'Assemblée a choisi les 7 diacres, et donc les apôtres, ils ont prié et ils ont approuvé le choix de l'Église, hein, et c'est ce qui nous est dit. Ils ont approuvé le choix de l'Assemblée en imposant les mains aux 7 hommes qui ont été choisis, verset 6. Ils ont imposé les mains, il n'y a rien de magique dans l'imposition des mains, c'était simplement pour ratifier le choix de l'Église. Aux yeux de tous, les apôtres étaient d'accord. Et les apôtres ont montré ainsi qu'ils faisaient confiance à Dieu, bien sûr, et aussi à l'Assemblée, en déléguant un travail à des personnes choisies par l'Assemblée. Parce que parfois, il faut déléguer. Les responsables ne peuvent pas tout faire, effectivement. Alors voilà, donc, on avance, et on avance en bien, puisque le choix a été fait par l'Assemblée. Et mon troisième point, eh bien, c'est que le remède contre les murmures, c'est de servir. C'est le service dans l'Église. Le remède a donné lieu à des serviteurs. Alors, ce texte nous apprend que par la grâce de Dieu, il est possible de remédier aux murmures dans l'Église. Et quel est le remède aux murmures ? C'est le service. C'est de servir. Plus précisément, de se mettre d'accord en Église pour choisir les serviteurs. Ce que la Bible appelle des diacres. Alors le mot diacre, vous avez le profil du diacre dans la première lettre à Timothée, chapitre 3, versets 8 à 13. Mais ici, le mot diacre n'est pas utilisé directement. Pourtant, il s'agissait vraiment de choisir des diacres dans l'Église. Et diacre, ça veut dire serviteur. Il s'agissait donc de choisir des hommes qui serviraient aux tables. Et le mot servir en grec, eh bien, c'est diakonéa. Et ça a la même racine que le mot serviteur qui est diakonos. Donc c'est là, clairement, ils ont choisi, l'Église a choisi des diacres. C'était le choix des premiers diacres, qui veut dire serviteur, servir. Alors, est-ce que c'est réservé seulement à certains de servir dans l'Église ? Non, nous sommes tous dans l'Église, tous appelés à être des serviteurs, les uns envers les autres. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur s'est fait le serviteur de tous, le serviteur par excellence. Et nous ne sommes pas plus grands que lui. Lui s'est fait serviteur, lui le plus grand s'est fait serviteur. Il était déjà présenté comme le serviteur dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe qu'on a vu avec Pascal, hein, c'est à la réunion de prière, il y a quatre textes qui s'appellent les quatre chants du serviteur, en Ésaïe 42, 49, 50, 52 et un peu du 53. Quatre chants du serviteur qui présentent, sans le nommer, la personne de Jésus, quelques 700 ans avant sa venue. Le chant, les quatre chants du serviteur. Et Jésus a dit de lui-même, dans l'évangile de Marc, en Marc 10, 45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Jésus a servi. Il a obéi à Dieu son Père en tout. Et aussi le service suprême qu'il a accompli pour nous tous, c'était de mourir sur la croix pour pardonner nos péchés, pour pardonner les péchés de tous ceux qui croiraient en lui et qui se repentiraient et qui croiraient aussi en sa résurrection. Voilà le plus grand service que Jésus est venu. Il s'est fait le plus grand serviteur. Alors lorsqu'on reçoit Jésus comme son sauveur, qu'on se repent de ses péchés, eh bien on reçoit le Saint-Esprit. Tout croyant a reçu le Saint-Esprit, quel que soit ton arrière-plan. Si tu as reçu Jésus, que tu as reconnu que tu avais besoin de son pardon, que tu as cru en son sacrifice, tu as reçu le Saint-Esprit. La Bible le dit. Et donc pas besoin de demander une seconde venue du Saint-Esprit, comme c'est parfois d'usage dans certains milieux. Non, un croyant, il a reçu le Saint-Esprit. Mais tous ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Tous ne sont pas remplis du Saint-Esprit, même si nous l'avons tous reçu. Et vous avez remarqué, c'est frappant dans ce récit, que là, en l'occurrence, l'Église a choisi des serviteurs pour servir aux tables. Eh bien, même pour servir aux tables, il fallait être rempli du Saint-Esprit. Verset 3. Ça rentrait dans le profil du diacre. Oui, parce que être serviteur, quand on se rend serviteur, c'est une marque qu'on a reçu le Saint-Esprit. C'est là où ça se voit. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est la marque du serviteur qui obéit. Là, effectivement. Et ce devrait être l'état normal de qui? De quelques-uns dans l'Église, plus spirituels que les autres? Non, ça devait être rempli du Saint-Esprit. Ça devrait être le cas de tout le monde dans l'Église, si on a cette attitude de serviteur. Et ça passe par l'obéissance dans le service. Au chapitre précédent, Pierre avait dit un peu plus haut au chef religieux, dont c'était le texte de la semaine dernière, en acte 5, verset 32, Pierre avait dit au chef religieux, « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » C'est donc, c'est pas tant le service en lui-même, mais c'est l'attitude de servir, de vouloir servir dans l'obéissance qui détermine si on est rempli ou pas du Saint-Esprit. C'est pas le service en lui-même, c'est pas parce qu'un tel, il a peut-être quelque chose qui est plus spirituel, servir aux tables. Non! Si quelqu'un est prêt à aller même servir aux tables, même pour le ménage, qui le fait de bon cœur, pour le Seigneur, il est rempli. Il est rempli du Saint-Esprit. Dans l'Église, nous sommes tous différents. Nous avons tous reçu des capacités différentes, la Bible appelle des dons du Saint-Esprit, qui sont des dons que le Saint-Esprit a donnés dans son Église. Quel est le but des dons du Saint-Esprit? Ce n'est pas pour notre gloire personnelle. Lorsque Dieu donne des dons à son Église, c'est pour servir. Pour servir. Et certains, nous avons tous reçu des dons très différents. Certains ont le don d'organiser, ce n'est pas le mien. Je peux aider, mais certains ont tout de suite un sens pratique, ils savent tout de suite voir où sont les besoins, quels besoins. D'autres ont un don de décorer l'Église. D'autres ont des dons musicaux, et encore bien d'autres dons. Et donc c'est à vous de reconnaître quel est votre don. C'est à chacun de reconnaître ses dons. Mais attention, si vous pensez avoir tel don, ils doivent être confirmés par l'Église. Suivant le modèle qu'on a dans ce récit, dans Acte 6, puisque c'est l'Église primitive qui a su reconnaître les sept hommes dont l'Église avait besoin, qui a su reconnaître les sept diacres. Donc, si vous pensez avoir tel ou tel don, il doit être confirmé par l'Église. Et alors, si vous pensez avoir trouvé votre don, et que vous voulez l'utiliser pour servir l'Église locale, alors vous êtes sur la bonne voie. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'un don est moins spirituel qu'un autre. Comme on l'a dit, c'est l'attitude de servir qui détermine si on est rempli du Saint-Esprit, plus que le service en lui-même. Donc ne croyons pas qu'un don a moins de valeur qu'un autre, parce que dans l'Église, tout est spirituel. Même servir aux tables, c'est spirituel, c'est ce que nous apprend ce texte. Mais, et c'est ce que nous rappelle ce texte, il y a tout de même des priorités dans le service, des priorités. Ce n'est pas moins de valeur, mais il y a des priorités. Si servir aux tables est un service, il y a un autre service qui est celui de prêcher la parole, d'enseigner la parole. C'est le mot « diaconia » qui est aussi traduit par « ministère » au verset 4, que je vous relis, acte 6, 4. « Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. » Et prêcher la parole, c'est prioritaire par rapport au service à servir aux tables. Le verset 2 du même chapitre 6, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est la parole de Dieu qui fait grandir l'Église. Et pour autant, il ne faut pas négliger les services aux tables. Et Dieu veut que son Église grandisse, n'est-ce pas? Et si vous reprenez acte 2, 42, les quatre domaines où l'Église est appelée à persévérer, dans quoi il persévérait, dans quoi en premier? Dans l'enseignement des apôtres. Donc, service de la parole prioritaire par rapport au service aux tables. Mais il n'a pas moins de valeur. Voilà donc les sept diacres qui ont été choisis par l'Église. Et si vous avez remarqué leurs noms, et ce n'est pas pour rien si leurs noms sont cités, ce ne sont pas des noms juifs, ce ne sont pas des noms hébreux, ce sont les heureux élus, on peut les appeler comme ça. Ce sont des gens qui étaient de culture grecque à en regarder leur nom, si vous regardez leur nom. Ce n'étaient pas des noms à consonance juive. D'ailleurs, si on prend Nicolas, il nous est dit que c'était un prosélyte de la ville d'Antioche, et Antioche, c'était une ville païenne. Il n'était même pas juif, Nicolas. Alors, ce sont des Grecs, enfin des Hellénistes plus exactement. Oui, des Grecs, de culture grecque, qui ont été choisis pour pallier à ce manque de service pour les veuves hellénistes. Et maintenant qu'on sait que servir, c'est un honneur, parce que quand on sert, on est à la ressemblance de Jésus-Christ, qui était le parfait serviteur. Eh bien, voyons dans l'élection de ces sept hommes une concession et une grâce accordée au groupe qui s'est plaint que les veuves hellénistes étaient négligées. Ce sont des hellénistes, et en l'occurrence des Grecs, des païens, des nations voisines, qui ont été élus pour servir aux tables. Et c'est une concession, parce que c'est une grâce de servir. C'est une grâce. Une grâce accordée au groupe de langue grecque qui se plaignait. Alors, parmi ces sept diacres, il n'y en a que deux qu'on retrouve ailleurs, dans le livre des Actes, principalement. Il n'y en a que deux qui ont laissé des traces. Les autres, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais il y en a deux qui ont laissé, on en retiendra principalement deux. Il y a eu Philippe, et Philippe, c'était un évangéliste. C'était un évangéliste, il était diacre, c'était un évangéliste qui a porté l'évangile en Samarie à l'eunuque éthiopien en acte 8. C'est pour un petit peu plus tard. Donc, et c'est aussi Philippe qui a fait preuve d'hospitalité lorsqu'il a reçu Paul chez lui à Césarée. On peut lire en acte 21, chapitre 21, verset 8, donc Paul, qui dit « Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. » Donc un service qui a dépassé le service local dans l'Église. C'était un évangéliste. Être diacre n'empêche pas qu'on ait... On peut être évangéliste aussi. Le second diacre qui a laissé des souvenirs, et qui a laissé non seulement des souvenirs, mais qui a laissé des traces dans la parole, c'est Étienne, bien sûr. Et Étienne, c'est dans le chapitre suivant, il va montrer qu'il connaissait très bien l'histoire d'Israël. lorsqu'il aura à défendre sa foi devant les chefs religieux. Et Étienne sera le premier martyr dans l'Église. Après son discours devant les chefs religieux, ils ne vont pas le supporter, ils vont le lapider. Mais Étienne va montrer que, tout en servant aux tables, il connaissait très bien l'histoire d'Israël et très bien le plan de salut, que on en était arrivé là à une autre époque, c'était à l'époque de l'Église, et Étienne l'avait très bien compris. Alors, eh bien, un diacre n'est pas moins spirituel qu'un ancien. Un diacre, les exemples qui sont donnés ici, Philippe et Étienne, leur service a dépassé largement le cadre de l'Église locale. Voilà donc les diacres qui ont été élus. Donc une meilleure organisation dans l'Église. Et le verset 7 indique que cette nomination des diacres contribuera grandement au progrès de l'Évangile, de la parole qui continue à se répandre, parce que les apôtres étaient déchargés des tâches matérielles, financières, alimentaires de l'Église. Et l'Église donc a pu continuer à grandir. À tel point que même, il nous est dit, au verset 7, même des sacrificateurs ont obéi à la foi. Des sacrificateurs, d'ordinaire, les sacrificateurs, ils étaient opposés à Jésus et aux apôtres. Mais ici, il y en a certains, les sacrificateurs, ceux qui étaient de service dans le temple, eh bien, il nous est dit que les sacrificateurs se sont convertis. De par leur présence dans le temple, eh bien, ça va causer des problèmes. Et ça va mettre en colère encore plus les chefs religieux. Ça va causer des problèmes à Étienne. Et ça, c'est pour le chapitre suivant, qu'on ne va pas voir aujourd'hui. Mais l'Église continue à grandir. Donc voilà, un récit donc qui nous apprend où on est passé des murmures au service dans l'Église en passant par l'unité dans l'Église. On est passé des murmures dans l'Église, au service dans l'Église, en passant par l'unité dans l'Église. Tout le monde s'est mis d'accord. Et là, on voit la grâce de Dieu. Comment par la grâce de Dieu, l'Église a su se relever en faisant sa part. Dieu a changé le mal en bien. Et les murmures sont toujours à éviter. Deux autres principes aussi pour éviter les murmures, si vous avez du mal à lutter contre les murmures, deux autres principes qui nous aident beaucoup, que Dieu nous a donné dans sa grâce pour éviter les murmures, deux attitudes. La première, c'est de la reconnaissance. C'est de rendre grâce à Dieu. En disant merci à Dieu, on ne se plaint pas. Pourquoi? C'est pas même dans une 1 Thessaloniciens 5:18 nous dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En toutes choses, même lorsqu'il arrive quelque chose de désagréable, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Si tu rends grâce, c'est pas parce que tu aimes souffrir, c'est parce que tu lui fais confiance que l'issue elle sera la meilleure pour toi, s'il permet que tu passes par telle ou telle épreuve. Et quand on rend grâce, on a moins envie de se plaindre. En tout cas, on n'a pas envie de murmurer. Mais on peut se plaindre à Dieu de ce qui ne va pas. Premier principe, donc la reconnaissance. Deuxième principe, ce que Paul a dû apprendre, et si Paul a dû l'apprendre nous aussi, c'est le contentement. Savoir se contenter de ce qu'on a. C'est au fond d'une prison que Paul pouvait dire, Philippiens 4, 11, « J'ai appris à être content dans les situations où je me trouve. » Ça s'apprend le contentement. Paul a dû l'apprendre. Et je vous relis aussi du même Paul, 1 Timothée 6 à 8, les bienfaits donc du contentement. 1 Timothée 6 à 8, la piété avec le contentement est un grand gain, car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Alors, ayant nourriture et vêtements, nous serons satisfaits. Donc, cultivons la reconnaissance, le contentement. Évidemment, dans le monde, le contentement, on ne le trouve pas beaucoup, hein. Le contentement, ce n'est pas un sentiment qui court les rues aujourd'hui. C'est plutôt l'insatisfaction, les revendications. Période d'élection, bien sûr, on en a beaucoup entendu. Mais nous autres chrétiens, nous devrions avoir une toute autre attitude. Et c'est là que le monde devrait voir la différence. Si nous connaissons et nous aimons Jésus, en l'imitant, en montrant que nous lui faisons confiance. Je relis Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, même ce qui t'arrive qui n'est pas agréable. Alors, autant de raisons de lui faire confiance. Si on se contente de ce qu'on a, on est d'autant plus proche de Dieu. Et il est notre plus grande richesse. Je vais prier. Oui, Seigneur, merci pour ce rappel que, Seigneur, tu connais ton Église. Nous sommes des humains, Seigneur, tu connais nos besoins et tu promets d'y répondre, Seigneur. Ce que tu nous demandes, c'est de te mettre à la première place et de te faire confiance, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans nos difficultés à supporter les difficultés en te faisant confiance, Seigneur. Pas nous y complaire, mais à te faire confiance pour une issue favorable, Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur, encore pour... parce que, oui, ce sont des réalités, Seigneur, les plaintes, les murmures. Et, Seigneur, nous te demandons, lorsque quelque chose ne va pas, déjà, de t'en faire part à toi en premier. Et le problème, tu peux le résoudre, Seigneur. Et si tu ne le résous pas, c'est que tu attends, Seigneur, qu'on le résolve ensemble. Alors, Seigneur, je te prie de nous aider à être attentifs à ce que tu fais, Seigneur, et voilà, à rechercher la solution. Tu es la solution, Seigneur. Il y a toujours une solution, Seigneur. C'est de la chercher en toi et en Église, Seigneur, ensemble. Et merci, parce que tu peux changer le mal en bien, Seigneur, dans ta grâce. Merci. Tu nous connais, tu nous comprends, Seigneur. Tu sais, tu connais tout ce qui peut nous contrarier, Seigneur. Mais avant tout, apprends-nous à te le remettre, Seigneur. Et nous sommes parfois étonnés comment tu réponds, Seigneur. Et à toi toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.